Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Concrètement. Et cette semaine, je reçois Stanislas. Bonjour Stanislas.
Bonjour Pascal.
Et dis donc Stanislas, j'ai appris que dans Azure, 20% des machines virtuelles qui étaient déployées par nos clients étaient des machines virtuelles Linux. Dis-moi pas que c'est pas vrai.
Je ne te dis pas que c'est pas vrai, mais c'est pas tout à fait juste. En fait, c'est pas 20% ce qui correspondrait à une machine sur 5, mais en fait c'est 25% aujourd'hui à l'échelle mondiale, ce qui représente donc une machine
Une
sur
machine
4.
sur 4.
Donc ça veut dire que dans Azure, aujourd'hui, effectivement, on va avoir 75% de machines Windows, parce qu'historiquement, effectivement, nos clients, naturellement, ont déplacé leur workload Microsoft sur de l'Azure. Mais on a également 25%, donc une machine sur 4, qui est du Linux. Et en fait, Linux, ça fait déjà quelques années qu'on travaille en fait pour faire en sorte que Linux fonctionne très bien sur nos plateformes de virtualisation. Rappel, en 2012, Microsoft était un des 10 plus gros contributeurs du noyau Linux parce qu'on avait intégré tout ce
Les
qui était
LIS,
les LIS, donc les fameux éléments de paravirtualisation pour bien faire fonctionner Linux sur Hyper-V. Et devine quoi, Azure, c'est de l'Hyper-V. Donc derrière, en fait, effectivement, aujourd'hui, Linux marche très très bien dans Azure. Et l'idée derrière aussi, c'est de pouvoir offrir finalement à nos clients le maximum d'images préconfigurées, mises à jour également à l'instant où ils la déploient, de différentes distributions, des distributions qui sont des distributions libres et gratuites, et d'autres qui sont des distributions Linux plutôt commerciales.
Donc tout ce qu'on
Donc
voit
ça veut
ici,
dire.
c'est non seulement des OS qui sont supportés, mais en plus qui sont disponibles directement sous forme de modèles pré-emploi,
Exactement,
quoi.
donc c'est-à-dire que c'est des machines virtuelles, des OS qu'on peut déployer en quelques minutes, très rapidement. Donc tu remarqueras ici effectivement les OS, on va dire, commerciaux comme Red Hat, comme SUSE, ou comme Oracle Linux, ou encore CoreOS. Et puis d'autres choses qui sont effectivement des systèmes, entre guillemets, sans coût de licence, comme un Debian, ou un Ubuntu, ou un OpenSUSE, par exemple, pour ne pas le citer, ou un CentOS, par exemple. Donc le spectre est assez large, en fait. On a mis quelques dizaines de mois à bien rassembler tout ça. Mais aujourd'hui, globalement, toutes ces distributions sont bien supportées. Le support va aller, pour les distributions commerciales, jusqu'à en fait, des accords de support inter-support Microsoft et tiers, donc Microsoft et SUSE, ou Microsoft et Red Hat, par exemple, ou Microsoft et Oracle, pour dire, ben, quand vous venez sur notre plateforme et que vous avez un problème, vous avez une seule interface de liaison en termes de support. Ou si vous ne l'avez pas, quand vous appellerez le support, je ne sais pas, par exemple d'Oracle, ils ne pourront pas vous dire non, testez-le d'abord sur notre solution de virtualisation avant qu'on vous le valide en tant que problème sur une solution de virtualisation tierce. Là, il y a des accords, des partenariats inter-organisations, Microsoft Oracle, Microsoft Red Hat, Microsoft SUSE, pour qu'effectivement, il n'y ait pas ces problématiques pour le client final.
Ok, donc de la petite start-up à l'entreprise qui a des vraies problématiques d'entreprise, on supporte voilà, toute cette gamme d'environnements sous Linux.
Exactement.
Donc on supporte également les extensions pour les machines virtuelles. C'est une technologie bien connue des machines virtuelles dans Azure, spécifique à Linux. Et donc lesquelles, par exemple?
Alors, il y en a plusieurs qui sont intéressantes. Alors, tu as les extensions pour tout ce qui est, entre guillemets, déploiement en mode un peu DevOps ou orchestré. Donc, je pense à du chef, je pense à des extensions Puppet, par exemple, que je n'ai pas mis ici. On a également tout ce qui est DSC, donc Desired State Configuration, qui est un élément de PowerShell, hein, qui permet de faire de l'orchestration un petit peu, d'ailleurs, à la manière de chef ou Puppet ou Ansible. On a des modules de diagnostic qui vont permettre de récupérer les logs et de les analyser, ou alors de voir l'équivalent de la console 0.
Oui, en fait, on voit ce qui s'est passé au boot. Et c'est très important quand une machine démarre mal ou ne démarre plus, de voir ce qui se passe sur la console du boot. En gros, tout le log de démarrage, ce qu'on peut afficher avec la commande DMESG en général.
Exactement. La VM Access est assez intéressante. On est capable, par exemple, de resetter en fait, le mot de passe de root, par exemple, au sein d'une VM. Si on a perdu en fait, ce mot de passe, la personne qui s'en occupait est partie. En tant qu'administrateur de la VM en tant que telle, on peut la resetter. Pareil, si on a fait des mauvaises opérations sur le réseau, on est capable de réinitialiser les paramètres au réseau pour que la VM se remette bien sur ses pattes dans la fabrique en termes de réseau. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bientôt le backup des VM qui va être intégré nativement sous la forme d'une extension. Et puis globalement, on a pas mal d'autres choses qui vont arriver. Donc en gros, les extensions, c'est des plugins qui facilitent en gros l'administration pour faire simple et qui vont utiliser soit des choses purement Microsoft, soit des choses de l'écosystème utilisées par les gens qui ont l'habitude de faire du Linux de manière un petit peu plus agile ou orchestrée. Ce qui est bien dans Azure, comme notre concurrent d'ailleurs, c'est qu'en fait, ces systèmes Linux, on va pouvoir les faire tourner sur des petites machines qui ne coûtent pas cher ou sur des très grosses machines qui valent très cher.
Qui
Donc
coûte
en
un
gros,
petit peu plus cher.
un petit peu plus cher. Donc en gros, il y a quoi retenir de ce slide-là finalement, c'est que je pense que 4, 99% des besoins sont couverts ici par le spectre de puissance des machines virtuelles. qu'on ait besoin d'une très grosse base de données ou de CRM, etc. Vous voyez qu'une GS5, 32 cœurs, 448 Go de RAM, 64 disques de données qui font 80 000 I/O par seconde, un SSD local pour faire des données temporaires volatiles de quasiment 900 Go. Personne n'arrivera à ces limites-là. Enfin, c'est vraiment des cas très extrêmes. Et c'est l'argument de dire oui, mais nous, on a besoin de puissance pour notre machine Linux ou notre applicatif X, Y ou Z. Il n'y a pas vraiment lieu d'être en fait dans Azure parce qu'on couvre déjà pas mal de choses avec ça.
Et comme c'est du cloud, on paye pendant le temps où on s'en sert, et pas
Exactement.
plus.
On est sur une facturation qui est à la minute. Donc, si on a besoin de faire des opérations de calcul ou de moulinage de table ou de je ne sais quelle autre tâche qui peut être consommatrice, on peut la faire tourner la grosse VM, l'instancier. Faire tourner le workload, et puis quand c'est terminé, on peut l'arrêter, donc on ne paye plus à demain. Donc, on a parlé tout à l'heure d'images dans Azure avec différents fournisseurs, tels que Oracle Linux. Je n'ai pas vu que mon slide est animé sur le logo Ubuntu, c'est quand même assez
C'est phénoménal.
spectaculaire. Donc, on va avoir des images de machines virtuelles prêtes à l'emploi qui sont disponibles directement dans ce qu'on appelle le Marketplace Azure. On retrouvera ces fameuses images. Donc ça, on a les images officielles fournies par les communautés ou les éditeurs qui font ces images. Et puis, on a également des images qui contiennent des socles applicatifs fournis, elles, par la communauté. Par exemple, tu as besoin d'un WordPress dans telle version avec PHP. Eh bien, tu as des VM, en fait, qui existent déjà, toutes packagées. Et il n'y a plus qu'à dire, déploie-moi la VM. Et à la fin, tu arrives, tu as ton PHP de telle version, ton MySQL de telle version, sur telle version Linux. Donc, en gros, ce sont des applications qui sont des applications libres, par définition. Comme ça, elles sont mises à la disposition de tout le monde. Deuxième manière d'avoir une image dans Azure, c'est de faire du Docker. Docker, célèbre technologie, on va dire, de virtualisation d'OS, de la virtualisation applicative pour être plus précis, qui fonctionne bien entendu avec des containers Linux type LXC. Eh bien, en fait, on a dans Azure une intégration avec le Docker Hub, et donc on va pouvoir en fait instancier des machines virtuelles Linux avec le moteur de Docker dessus et des containers au-dessus qui vont venir. Les containers vont venir en fait du Docker Hub tout simplement, donc on retrouve les choses tout à fait classiques. Dernière option, vous avez une organisation dans laquelle vous avez déjà fait vos propres images Linux qui sont paramétrées à votre sauce, avec vos particularités, etc. Vous pouvez prendre le disque dur de votre machine virtuelle, transformer en VHD s'il n'est pas déjà en VHD, et le télécharger dans Azure, et du coup vous pourrez instancier à nouveau des machines virtuelles Linux à partir de vos images. Eh bien, écoute, je te propose de voir ça très très rapidement en démonstration. Donc, on va basculer sur mon portail Azure. Donc, portail assez graphique, dans lequel, si effectivement je veux créer une nouvelle machine virtuelle, je vais aller sur Nouveau. Je vais aller sur Compute. Et puis ici, je peux choisir. J'ai une première liste qui me fait apparaître des choses. Tu vois, je vois ici du Ubuntu Server. Alors, si je ne sais pas trop ce que je cherche, en fait, le plus simple souvent, c'est d'aller dans le marketplace et de faire une recherche ici. Donc, si je recherche par exemple Linux, là, j'ai la grande liste qui va défiler. Et puis, je n'ai plus qu'à choisir dedans. Donc, au passage, tu vois aussi des agents, par exemple des agents de protection antivirale qui ont été disponibles. On voit ici des scripts qu'on peut démarrer sur des machines Linux. Donc, tu peux instancier une machine Linux et lui rajouter un script derrière qui sera démarré en post-installation. Mettons que, je ne sais pas, si je veux un Ubuntu, par exemple. Ubuntu. Donc là, je vais avoir la liste. Donc on voit les différentes distributions qui sont supportées. Si je voulais un Ubuntu avec un Docker, je vais faire Docker. Et là, en fait, on a des choses qui sont déjà également packagées pour vous faire gagner du temps. Donc ici, par exemple, j'ai une machine qui s'appelle Docker en Ubuntu Server. C'est quoi? C'est un Ubuntu Server qui va être démarré avec l'installation automatique de l'extension Docker faite par Microsoft. Et qui va donc du coup rajouter le moteur Docker dessus. Donc rapidement, en fait, en quelques clics, en fait, on peut déployer une machine virtuelle qui va contenir tout ça sans trop se poser de questions, entre guillemets. Alors, il y a quand même quelques questions. On va te demander un nom de machine. On va te demander un nom d'utilisateur. Parce qu'en fait, on ne va pas se connecter en route comme ça à distance. Hein,
Exactement.
Ce serait un petit peu sale, comme on dit.
Éventuellement une clé publique SSH.
Alors là, tu as les deux options. Soit tu fais du login et mot de passe, et dans ce cas-là, tu donnes ton mot de passe. Soit effectivement, tu fais du SSH, auquel cas tu vas prendre effectivement ta clé publique. Et ta clé publique. Alors là, je ne sais pas pourquoi l'interface est un petit peu lente. On
Et
va la
bon, le
refaire.
principe étant que pour les machines Linux dans Azure, on a toujours l'interface SSH, que ce soit avec une clé publique qu'on fournit ou avec un mot de passe qu'on fournit également.
Exact. Donc je l'appelle par exemple mon Linux. Je donne un nom. Ici, je vais prendre un mot de passe pour faire plus rapide, plutôt que d'aller chercher ma clé SSH. Le mot de passe va être complexe, c'est important. Et si
Toujours.
je choisis la taille de ma
La taille.
VM, Donc, tu as compris, hein, plus c'est petit,
UGS,
moins c'est cher,
etc.
etc. On va choisir les options complémentaires de réseau si on veut personnaliser un petit peu ou mettre toutes les machines dans un même réseau. Et puis, on va choisir la localisation, c'est-à-dire où est-ce qu'on va le déployer avec les différentes zones dans nos différents data centers de par le monde. Donc là, la création va se lancer, ça va prendre un petit peu de temps, et puis ben, on le récupérera tout à l'heure. Alors, tu me connais, hein, tel Maïté, je peux refaire une recette de poulet, je peux enfourner le poulet dans le four et le ressortir dans la minute qui suit, il est déjà tout grillé, il est magnifique, prêt à consommer. Donc là, j'ai fait la même chose pour cette démonstration. Et donc, j'ai ici déjà des machines virtuelles qui tournent, donc j'ai d'ailleurs des machines virtuelles Docker. Donc c'est du Linux qu'il y a derrière. Et une fois que tout est installé, ben, on va retrouver effectivement ces machines virtuelles avec les différentes ressources consommées par ces machines virtuelles. Deux types de machines virtuelles, les dites classiques, installées avec l'ancien portail qui vont donc ressembler à ça. Et on a également normalement des ressources groupes avec le nouveau modèle. Tu vois, les icônes ne sont pas les mêmes et ce n'est pas tout à fait le même modèle de déploiement. Je vous encourage à utiliser celui-ci qui s'appelle le modèle ARM, Azure Resource Manager. Effectivement, on retrouve la machine virtuelle avec sa carte réseau. Donc chaque carte réseau est un objet en tant que tel. Ici, on va retrouver les règles de pare-feu liées à cette machine virtuelle. Donc c'est là où vous allez ouvrir, en gros, pour vous, ça sera fait de manière automatique,
Le port 22.
le port 22 pour le SSH. Le compte, l'adresse IP publique qu'on va utiliser, hein, le compte de stockage et puis le réseau virtuel dans lequel elle est connectée. Comment on fait maintenant pour s'y connecter? Eh ben, tu peux simplement aller sur la VM et il va te montrer l'adresse IP publique. Tu peux également aller ici sur la partie adresse IP publique. Donc là, il est en train de charger, tac, tac, tac. Il me dit, voilà, ton adresse IP publique, c'est celle-ci. Bon, ben là, tu prends ton outil de SSH préféré. Bon, moi, j'ai pris Putty. Hop, je vais chercher une machine. Là, on arrive naturellement sur du Linux, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, je suis bien sur un Ubuntu qui est en train de tourner dans Azure. Et ce qui est intéressant, c'est que tu pourrais dire, alors je vais te l'agrandir un petit peu pour tes yeux, parce que c'est tellement plus joli quand la
Quand on
fonte
y
est un
voit
petit peu
bien.
plus grande.
Ouh, ça
Voilà.
va être gros, ça.
Non, non, c'est pas grand, regarde, c'est parfait, Pascal.
Magnifique.
Donc ici, je suis effectivement dans ma machine virtuelle qui tourne dans Azure. Et peut-être que moi, en tant qu'administrateur Linux, ben, je préfère utiliser la ligne de commande pour faire des scripts et industrialiser un petit peu mes déploiements ou faire toutes mes manipulations directement depuis la ligne de commande. Donc on a un outil qui s'appelle Azure CLI, qui est donc un client Azure basé sur du Node.js derrière. Donc, il y a une dépendance par rapport à Node.js. Et une fois qu'on l'a installé, eh bien, ce client
On
Azure.
l'installe avec NPM pour ceux qui connaissent Node.js.
Exactement. Et une fois qu'on est dedans, et ben là, on a donc l'outil en ligne de commande qui va permettre de faire l'ensemble des opérations, donc créer des groupes, créer des applications, créer des réseaux, créer des machines virtuelles, etc. Et tout va se faire depuis donc cette interface de ligne de commande si on ne souhaite pas utiliser l'interface graphique. Alors pour ceux qui font du Docker, donc ici j'ai un moteur Docker sur cette machine. À ma connaissance, si je me rappelle bien, il y a une machine, il y a un container Docker qui existe, qui contient déjà l'Azure CLI. Si
Tout à
j'arrive à me
fait, qui se
souvenir de
trouve dans
nom.
le Docker Hub et qui s'appelle Microsoft slash Azure tiret CLI. Donc si tu fais search Azure ou Azure
Ou.
CLI,
Ouais.
ou Microsoft, oui, pourquoi pas. Ouais.
Ouais, il y en a plusieurs déjà,
Ah,
tu
il y en a
vois.
peut-être beaucoup.
Donc, on
Azure
devrait.
tiret CLI tiret tools, mais il y a quelque part Azure tiret CLI.
Je crois que c'est
Oui, je
Microsoft.
vois. Ah non,
Tu
c'est
le vois?
générique. Tu cherches Azure tiret CLI, à mon avis.
Voilà.
Alors, il y a eu des
Azure-CLI.
forks.
Ah bah tiens, il y en a un, c'est moi là ici. Tu vois,
Ouais.
j'ai fait ma propre container et je l'ai uploadé également. Microsoft, voilà, il est là. Tac. Microsoft slash Azure-CLI. Donc à tout moment, je peux faire un Docker run.
Moins IT.
Exactement. Si on veut passer en interactif.
Donc plutôt que si on ne veut, si on n'a pas vraiment pas envie d'installer Node.js et puis faire un petit coup de NPM, on peut toujours faire cette méthode-là pour utiliser
Exactement.
Azure CLI.
Et là, effectivement, je suis dans l'Azure CLI qui est dans mon container. Et c'est une autre façon de faire la chose, d'utiliser en fait rapidement. C'est intéressant également pour ceux qui ont peut-être des machines physiques où ils ne veulent pas installer Node.js. Par contre, ils ont un moteur Docker. Et ben, c'est un moyen de le faire. Donc Azure CLI marche sur Mac, sur PC, j'allais dire, mais sur Windows, et bien entendu sur Linux. Donc voilà, Azure CLI, c'est la meilleure façon finalement d'utiliser tout ça. Pour se former, simplement rechercher Azure CLI dans votre moteur de recherche préféré, vous aurez des exemples. On peut déployer les ressources Azure avec des modèles. Et c'est fait une recherche sur Azure Quick Start Template, ici. Ici. Voilà, ça charge. Eh bien, là, vous avez la liste de modèles déjà pré-créés. Vous dites, je voudrais m'inspirer de modèles pour faire une machine Linux. Vous tapez Linux dans la recherche. Là, ça veut dire, voilà, comment déployer des Linux derrière, par exemple, un load balancer. Eh bien, vous allez directement ici. Donc, soit vous cliquez sur Deploy et vous renseignez les quelques informations qu'on va vous demander qui sont celles-ci, c'est-à-dire la taille de la machine virtuelle, la version Ubuntu dans cet exemple,
donc ça, ce le nombre d'instances, etc. Les paramètres du modèle
ARM.
Défini dans le modèle JSON, ARM.
Et donc, si vous utilisez Azure CLI, vous allez venir ici simplement et taper ces deux commandes. Azure config mode ARM, pour passer en mode ARM. Azure group deployment, là, vous donnez un nom. Et automatiquement, ici, on peut aller chercher directement dans le GitHub, en fait, le template. Il n'y a plus qu'à saisir après les informations demandées.
Donc, soit on répond aux questions ensuite dans la ligne de commande pour rentrer les paramètres, soit on fournit avec un autre paramètre de la ligne de commande, le fichier JSON des paramètres.
Exactement. Et là, vous remarquerez qu'il y a plein d'autres exemples sur Linux, etc. Comment déployer une ou plusieurs machines Linux directement avec ces modèles. Donc, Azure CLI, ça devient votre interface d'administration pour industrialiser un petit peu. Et puis, le portail tel que je vous l'ai montré, c'est la partie un peu plus visuelle, un peu plus graphique pour voir tout ça. Dernière chose, et on terminera par ça, on a dans Azure quelque chose qui s'appelle OMS, Operation Management Suite, qui permet notamment, avec une fonction qui s'appelle Log Analytics, d'aller collecter de l'information depuis des systèmes d'exploitation et après de faire une moulinette intelligente dessus pour pouvoir parser les logs de manière propre et avec un peu de machine learning derrière. Il existe un composant qui va s'installer sur des machines Linux également. Donc il existe un agent pour OMS, pour Linux, qui vient compléter l'agent OMS qui existe déjà pour Windows. Voilà Pascal pour ce petit tour d'horizon de Linux dans Azure ou Linux sur Azure. On a vraiment juste gratté le vernis, il y a plein d'autres choses à voir, mais globalement, à retenir, c'est qu'on peut faire tourner n'importe quelle taille d'instance Linux dans Azure, qu'on supporte la majorité des distributions et qu'on a des outils pour tous les profils du consommateur dans un navigateur jusqu'à la ligne de commande et l'orchestration.
Merci beaucoup Stanislas pour ces démonstrations et on se retrouve pour un nouvel épisode dans une semaine. Au revoir et bonne semaine à tous.
Au revoir.